Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo enregistrées dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, aujourd'hui 19e épisode des Saints de chez nous, le Père Sestac de Bayonne, le Père Caricoïts d'Ibar et le Père Jean-Léon Bastre de Saint-Pé-sous-Nivelle.
Nous arrivons à notre quatrième grande figure spirituelle du terroir. C'est Louis-Édouard Sestac. Louis-Édouard Sestac qui vécut du 6 janvier 1801 au 27 mars 1868. L'œuvre de l'abbé Louis-Édouard Sestac plonge dans l'admiration celui qui la considère, par son ampleur et aussi par son aspect spectaculaire et baroque. Ses couvents, ses ateliers, ses cultures, ses pépinières, ses fermes qui s'élèvent dans un désert de sable, ses filles arrachées à la prostitution, qui n'ont plus de regard que pour la croix, qui vivent dans un dénuement, une austérité, un silence effrayant, c'est la réalité du refuge. L'abbé Sestac avait un esprit d'entreprise extraordinaire. C'était un fondateur né. Dès lors qu'il fut vicaire à la cathédrale de Bayonne en 1831, à 30 ans, il fonda la congrégation des filles de Marie et de Sainte-Anne pour les domestiques qu'il réunissait chaque dimanche. Puis la persévérance, plus tard appelée la congrégation des enfants de Marie, dont les membres, disent les biographes, étaient recrutés parmi les demoiselles de la société. Puis un cercle d'études pour les jeunes gens. En 1836, un bâillonnet de bonne volonté que nous connaissons déjà, Joachim Dubroc, lui prête au Hougassé une grande cuisine et une petite chambre. Il y loge 7 orphelines de Marie. Elles sont 16 en 1838, lorsqu'il transfère 7 orphelines à Sommaire au Grand Paradis, une maison proche du cimetière Saint-Léon qui leur est laissée par les filles de la Croix, celles-ci transportaient leur école près de la cathédrale. À peine l'orphelinat est-il installé dans sa nouvelle demeure qu'il fourre dans le grenier du Hougassé, dont il rabat la trappe et emporte l'échelle, ses 2 premières repenties. L'année suivante, en juin 1839, il acquiert la maison Châteauneuf et 15 hectares de sable dans les dunes d'Anglette qui bordent l'océan. Ce sera demain Notre-Dame du Refuge sur plus de 100 hectares. Pour l'heure, il y loge 14 pénitentes et une poignée de jeunes femmes dévouées. En janvier 1842, la congrégation des servantes de Marie, alors divisée en 2 groupes, les servantes de Marie et les ouvrières de Marie, reçoit une reconnaissance canonique. Elles sont quelques dizaines. 20 ans plus tard, elles seront 900 dans 144 maisons. En 1846, dans la chaumière que le vieux Arnaud Larieux a abandonné pour confier ses derniers jours aux soins des sœurs, l'abbé Sestac place les 9 premières Bernardines. Elles font revivre, au milieu des dunes, l'épopée spirituelle des ermites de Cété et des premiers cisterciens. Jusqu'à sa mort, une crise cardiaque l'emporte dans la nuit du 27 au 28 mars 1868. Il sillonne la France, multipliant les fondations de Nazareth, c'est ainsi qu'il appelle les communautés constituées de 3 religieuses, ouvrant des écoles, fournissant le personnel d'hôpitaux. Ce sont 13 nouvelles maisons en 1862, 15 en 1863, 8 en 1864, 6 en 1865, 21 en 1866 et 1867. L'homme était d'origine très modeste. Son père, Dominique, un bigourdan de Sarriac, était un ancien marin qui avait exercé sur les bateaux des fonctions de chirurgien avec des compétences mal reconnues sur terre ferme. Sa mère, Jeanne Amitessarobe, avait à peine connu ses propres parents, une tante pieuse avait élevé l'orpheline. Au 45 de la rue d'Espagne, alors rue Mayour, elle avait installé un petit commerce qui semble avoir peu prospéré. Ils avaient 3 enfants, Marianne, Louis-Édouard et Élise, plus jeune que son frère de 10 ans. Nous ne suivrons pas le détail des études du jeune Sestac à l'institution d'Arguignarats, puis chez le curé de Pentous, puis au séminaire d'Air, de 1817 à 1820, puis à Saint-Sulpice, d'où il rentre à Bayonne, malade, après 15 mois à peine de théologie. À cette époque, du fait de la terrible saignée de la Révolution et de l'Empire, il y a une telle pénurie de clergés que Mgr d'Astros le nomme à 22 ans, professeur au séminaire de l'Arsor, où il remplit la triple fonction de professeur de musique, de professeur de mathématiques et d'économe, ô combien économe, ordonné prêtre le 17 décembre 1825, il est promu chef de section et professeur de philosophie jusqu'à ce que, en 1831, Mgr Darboux se livre à une épuration en règle du corps professoral de l'Arsor, soupçonné d'être gagné aux thèses libérales de l'amener. Édouard Sestac s'était en effet enthousiasmé pour le prêtre breton. Le voilà donc vicaire de la cathédrale de Bayonne, logé chez ses parents. Nous avons déjà dit qu'il ne tarda guère à se lancer dans l'aventure de ces éclatantes fondations. Physiquement, il n'avait rien d'extraordinaire, de taille moyenne, les cheveux noirs, le front haut, les yeux vifs, le visage ovale. Il ne manque pas d'un certain charme, le même qui habite sa sœur Élise, la mère vénérée. C'est ainsi que les orphelines appellent sœur Marie-Madeleine, la directrice de l'orphelinat. Plus tard, alourdi, ramassé, les plis du visage creusés, il fait penser à un rému ronchonneur. Ses capacités intellectuelles sont considérables, exceptionnelles. Il s'adapte à tout, il s'entend à tout. Excellent violoniste, il aurait pu faire un virtuose du violon. Passionné par les mathématiques, ouvert à toutes les sciences, supérieur à ses condisciples dans toutes les disciplines ecclésiastiques, chargé d'enseigner la philosophie après de si brèves études. Dans ses fondations, il s'initiera aux techniques les plus variées. Par exemple, lui, citadin de la rue d'Espagne, fils de marin et de commerçante, devient un authentique expert en matière d'agriculture. Les paysans viennent lui demander conseil et on le prie de présider des comices agricoles. Son activité est énorme. Il en a besoin. Il y a chez lui comme une rage d'agir, une frénésie des œuvres. Moralement, il est irréprochable, énergique, austère. Sa spiritualité est dominée, presque écrasée, par sa dévotion à Marie, qu'il appelle sa divine maîtresse. Il fait tout pour elle, avec elle, par elle. Il est comme possédé par la Vierge Marie. La fondatrice, c'est elle. Bien mieux, il ne fait rien que selon ses inspirations. Et voilà un des côtés déconcertants de cet homme aux qualités hors du commun. Son autobiographie laisserait entendre que tout ce qui passe dans sa tête lui vient tout droit de la Vierge Marie. ce qui dénote une certaine présomption, de l'imprudence et un danger d'illusion. En particulier, et cela est grave, elle lui interdit de demander de l'argent pour ses œuvres. Elle pourvoira à tous les besoins. En attendant, compris, au besoin, 1000 Ave Maria, et qu'on travaille. De toutes les fonctions, donc, celle peut-être la seule à laquelle notre homme répugne, c'est celle de frère quêteur qui s'imposerait d'une extrême nécessité de rigueur. Le résultat, c'est que dans les débuts surtout, parce qu'ensuite l'œuvre si spectaculaire attire d'elle-même les secours, et Napoléon III et l'impératrice Eugénie eux-mêmes alimentent la caisse du refuge. Mais dans les débuts, le dénuement des orphelines, des pénitentes, des sœurs, serre le cœur. Leur misère est effroyable. Nous n'avons ni pain ni mâture pour souper. Une autre fois, nous n'avons plus de bois pour faire cuire les pommes de terre. Notre mère a touché le cœur de Madame de Quevedo, qui m'a donné 5 francs. Ils sont partis. Qu'on songe aux pénitentes cloîtrées dans leur grenier, aux Bernardines dans leur cabane, l'hiver, trempées par la tempête, grelottant de froid, étouffant l'été dans leur laine et sous leur capuche. Il n'est pas étonnant que l'œuvre ait suscité à ses débuts les critiques acerbes, non seulement de Chao, mais de bien d'autres. Évidemment, pour que ces jeunes femmes se soient ainsi soumises à l'abbé Sestac, il fallait qu'il eût une autorité morale, une aura, un magnétisme extraordinaire. C'était un homme absolument hors du commun. Mais il semble bien que son attitude devant l'argent était étrange et passablement contradictoire. C'est une hantise chez lui. Le manque, le besoin d'argent revient constamment dans son autobiographie et sa correspondance. Or, l'argent, il le méprise. Il porte en lui un idéal de pauvreté, mais il le désire aussi, et il veut le gagner par le travail, par la technique, le blanchissage, la culture, la couture et la broderie, jusqu'à ce que tout cela prospère, qu'on fabrique les plus beaux trousseaux de France et d'Espagne, ou alors que la divine maîtresse, providentiellement, miraculeusement, procure le détestable et bien-aimé argent. Tout est pour l'œuvre, bien sûr. Mais ce n'est que quelques années avant sa mort qu'il se dessaisira de tous ses biens qu'il a acquis et que la congrégation des servantes de Marie entrera en leur possession. Cette attitude complexe de Sestac devant l'argent s'explique, me semble-t-il, par la gêne de sa famille, l'humiliante pauvreté qui a marqué son enfance et sa jeunesse. Ce sont des bienfaiteurs, le chanoine d'Alincourt, et le marquis de Fezensac en particulier, qui lui permirent de faire ses études. On pourrait relever d'autres bizarreries dans les comportements de l'abbé Sestac. Par exemple, quand les difficultés se sont accumulées au Grand Paradis, au Châteauneuf, dans la solitude, partout, il lui arrive de planter là son monde et le voilà parti pour une retraite. Non pas au presbytère voisin, ni dans une abbaye proche, mais à l'améliorer, une trappe de Bretagne. Et quand les voyages étaient aussi longs qu'ils l'étaient alors, et aussi dispendieux. Et l'on dit encore qu'il était gros mangeur, et négligé dans sa mise, trascurato nei vesti, disent les actes du procès de béatification, et peu soucieux de se laver, et que sur les champs de foire, il avait tout l'air d'un toucheur de bestiaux, et nullement celui d'un digne ecclésiastique. Il avait un caractère emporté et se laissait aller parfois à des colères effroyables. On ne lui reprochera pas de n'avoir d'œuvre que féminine. Ce sont les femmes qui attirent son attention et c'est sur elles qu'il exerce une extraordinaire autorité que ne compromettent pas ses accès très humains de tendresse. Notre dernière remarque sera pour souligner le caractère personnel, individualiste de son action. Il règne seul, sans partage, sur ses fondations, avec une sorte de jalousie possessive. Et c'est à peine si tel ou tel de ses confrères prêtres, dans les derniers temps, le curé d'Anglet en particulier, l'assiste pour les confessions. La plupart des congrégations féminines fondées au siècle dernier et même auparavant l'ont été par l'action conjuguée, la collaboration d'un homme et d'une femme. On songe à François de Sales et Jeanne Frémiot de Chantal, à Vincent de Paul et Louise de Marillac, à André Hubert Fournet et Jeanne-Élisabeth Bichet des Arches, et combien d'autres. Ici, nous avons affaire à cet homme seul, d'une capacité extraordinaire, d'une personnalité écrasante, à la compétence universelle. On a l'impression qu'il intimide jusqu'à Monseigneur Lacroix, l'évêque de Bayonne. Heureusement, cette histoire et sa suite devaient révéler aussi des femmes d'un grand talent, d'une vertu éprouvée, d'un admirable équilibre. Plus qu'à Élise, blanche lune qui recevait un peu de la lumière d'un éclatant soleil, j'ai rencontré dans mes trop courtes lectures Gracieuse Baudin, mère Marie-François de Paul, la première supérieure générale, et mère Marie-Françoise de Sales, et mère Marie-Stéphanie. Il en a fallu beaucoup d'autres pour la vie et l'œuvre d'une si belle et si féconde congrégation à laquelle je suis heureux de rendre hommage. Je les ai fréquentées dans ma plus tendre enfance à Asparin, et je me souviens que sur les murs blancs de leur salle commune, il y avait deux cadres noirs. Sur l'un, on pouvait lire « La pensée de la mort contribue à une vie sainte », et sur l'autre, « Une vie sainte adoucit la pensée de la mort ». Ce sont les premières pensées que j'ai pu lire, sans savoir encore, je ne le saurais que bien plus tard, qu'elles étaient du vénérable et sans doute un jour bienheureux et saint Louis-Édouard Sestac. Notre cinquième figure spirituelle, et non la moindre, c'est celle de Michel Garrigoïtz. Je parlerai à peine de Michel Garrigoïtz. Parmi les saints de chez nous et du siècle dernier, c'est pourtant le saint en titre, le saint canonisé, le troisième de nos saints, après Ignace et François-Xavier. Mais c'est précisément parce qu'on parle beaucoup de lui et écrit très bien sur lui que j'ai choisi de consacrer le plus long de ma chronique à des hommes de Dieu davantage ignorés ou oubliés. La mémoire de Garrigoïtz a été entretenue de façon admirable par des auteurs excellents, Bourdain, Buzy, Mirande, Duvigneau, Mieyaya, Luce Laurent, Paul Gouillon, Jean-Baptiste Etcheberry, Pierre Moller, pour ne citer que ceux que j'ai lus. Que je dise en deux mots ce que j'ai retenu de la personnalité et de la spiritualité de cet homme que chacun de nous a ses raisons personnelles de sentir proche. Pour moi, c'est qu'il fut vicaire de Combeau, qui m'est si cher, et qu'il s'attacha tendrement aux filles de la Croix, particulièrement à celle d'Igon, et qu'il admira et imita notre fondatrice, Jeanne-Élisabeth Bichet des Arches. Michel Garrigoïtz fut le modèle des serviteurs de Dieu, s'entend, des serviteurs toujours disponibles, vigilants, hunani, huna nunisen, yaona, sule servitsuko. Heureux ces serviteurs que leur maître, à son arrivée, trouvera veillant. Garrigoïtz a fait toute une carrière de domestique pour payer ses études et sa pension. Sa famille était très pauvre, pobre de solemnidad, comme diraient nos voisins espagnols. Alors il est domestique, à Onex, chez les Angelus, puis à Saint-Palais, chez le curé Borda, puis à Bayonne, à l'évêché. De cette indigence et de cette condition, il ne gardera aucune amertume, aucune rancœur. Gary Coates, c'est l'équilibre, la sérénité, la mesure, la pondération, l'égalité d'humeur, le sérieux calme, la docilité parfaite, le bon sens, la parole avisée, l'application constante. Déjà chez les Angelus, quand il n'avait que 14 ans, on l'appelait Doctor, le docteur, et on se mit à le vouvoyer, lui, Motiltipia. D'où une sainteté classique, entièrement conforme au canon, de tout repos, dirais-je, si ce n'était pas tout le contraire de la fainéantise, sans bruit ni éclat, très différente de la sainteté baroque, étonnante, parfois choquante, dans ses stacks. Sa carrière ecclésiastique se réduit à Combo et à Bétaram, si on oublie son année de surveillant à La Ressort, quand il était à la veille d'être ordonné prêtre, et avait pour collègue Louis-Édouard Sestac, plus jeune que lui de 4 ans, mais déjà économe et professeur en plusieurs matières. Après ces deux années de vicariat à Combo, Gary Coates est nommé par Mgr Dastros, professeur au grand séminaire de Bétaram. Et lui, qui n'a pourtant étudié la théologie que 2 ans, y enseigne la philosophie, la théologie et l'écriture sainte. 6 mois après, en 1831, il est nommé supérieur. Mais dans les mois qui suivent, Bétaram perd tous ses séminaristes au profit de Bayonne et dès 1833, le supérieur n'a plus absolument personne à qui commander. Il est seul dans les vastes locaux déserts de la vieille maison. Mais voilà que, sans qu'il bouge, sans action d'éclat, sans propos fracassants, du fait de son prestige et d'une sorte de magnétisme discret, il attire des prêtres, des jeunes gens, des hommes âgés même, et voilà que cette société du Sacré-Cœur multiplie les missions, ouvre des écoles et se lance en Argentine pour secourir les Basques qui y ont émigré en grand nombre. Lui ne bouge, pour ainsi dire, pas de Bétaram, sinon pour parcourir les 4 kilomètres qui le mènent à Igon, chez ses chères filles de la Croix. Pas plus qu'Ignace ne sortait du Jésus. Mais de tout ce mouvement, il est l'âme. Il organise, le dirige, l'inspire. Travail accablant. Mgr Gouillon observait que son emploi du temps défiait l'imagination. Serviteur modèle, travaillant comme en massacre, c'était son expression. Toujours disposé à obéir, sans retard, sans réserve, sans retour. Toute ma vie, dit-il, je n'ai fait qu'obéir. Il mourut le 14 mai 1863, c'était le matin de l'Ascension. La vie et l'abondante correspondance spirituelle de Michel Gary Coates, ce sont pour la plupart des lettres de direction, ont pour nous, Basques, une saveur particulièrement délectable. Tout cela est robuste, simple et sain. On dirait de l'Etcheoguía, comme on le faisait dans les fours de nos fermes. Y a-t-il meilleure nourriture? La dernière figure de notre série, c'est celle de Don Augustin Bastre. Rien ne nous frappe plus chez le premier abbé de Belloc que la vocation à la sainteté, un désir, un appétit de la sainteté qui domine et oriente sa vie. Non par esprit de singularité ou quelque chose qui ressemblerait à de la vanité, mais parce que là se trouve la logique de la foi. Il n'y a de véritable chrétien que le saint. Augustin Bastre aurait aimé le mot de Georges Bernanos, « Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints ». Il disait, « Vous ne serez vraiment heureux dès ici-bas, autant qu'on peut l'être sur la terre, qu'en vous donnant à Dieu sans réserve. » C'est qu'il prenait absolument au sérieux l'Évangile qui nous assure que celui qui quitte pour le royaume, ou sa famille, ou ses biens, reçoit dans ce monde le centuple et le bonheur éternel dans l'autre. Sa vie s'éleva par degrés vers la perfection. Né le 18 mars 1832 à Saint-Pé-sur-Nivelle, dans la maison Bestiaria du quartier d'Ibaron, deuxième d'une famille de 6 enfants, après des études convenables à La Ressort et à Bayonne, Jean-Léon Bastre fut ordonné prêtre en 1856 et nommé vicaire à Espelette. Il connut là la vie commode des presbytères, la dolce vita, les délices de Capou, comme il dit, la molle médiocrité où l'on s'englue. Notre clergé basque est trop bien chez lui. Il a l'estime générale et le bien-être matériel, et c'est là une terrible glu dont on ne se dépêtre guère. Admettons, écrira-t-il à l'abbé Cayava, ce que je fais très volontiers pour vous et pour la plupart des prêtres, que la vie se passe sans écart notable, sans faute grave. Et ça c'est pour paraître avec confiance au tribunal de Dieu. Où est la vie de sacrifice? Où est la vie de prière et de recueillement pour beaucoup de prêtres au moins? Vous le verrez par votre expérience, combien il est difficile, au milieu des distractions, des préoccupations, des bagatelles du monde, de se maintenir dans la ferveur et l'inviolable fidélité à ses exercices de piété. Vous verrez comme on est insensiblement gagné et débordé par la marée constante de l'esprit du monde, des maximes du monde, et comme facilement ce maudit esprit trouve des intelligences dans notre pauvre cœur si faible lors des occasions. N'en sentez-vous pas déjà peut-être quelque chose? N'avez-vous rien à vous reprocher sur vos pratiques de piété, sur l'emploi de votre temps? Si oui, prenez cela pour un avertissement. Croyez-moi, fuyez cette mer si fertile en naufrage. Venez au port assuré de la religion, de la vie religieuse. Fuyez ces douceurs énervantes. Vous ne seriez qu'un soldat efféminé. Venez sous les drapeaux combattre auprès de vos compagnons d'armes. Nous regarderons sans cesse le ciel pour mieux oublier la terre. Nous répéterons sans cesse, mais avec une nouvelle conviction, « Quam sordet mihi tellus dum celum aspicio, omni arbitro stercora, ut Christum lucri faciam. » Que la terre me paraît sordide, tandis que je regarde le ciel, je considère tout comme du fumier afin de gagner le Christ. Les tristes délices d'Espelette, tartelettes, hachois et piments, ne durèrent heureusement que 3 ans. En 1859, et pour 6 ans, l'abbé Jean-Léon Bastre fut professeur au séminaire de La Ressort. C'était déjà mieux, pensa-t-il, une vie plus réglée, plus propre à assurer ses exercices de piété. Mais là non plus n'était pas sa vocation. Il le reconnaît humblement et fut un professeur médiocre. En 1865, à 33 ans, il fut nommé missionnaire à Asparin. Asparin écrit dans Île-de-France d'Haricot, dans sa belle biographie de notre saint, Asparin est la dernière étape de l'abbé Bastre dans le chemin de sa vocation religieuse. La marche peut paraître lente, elle est continue, elle est progressive. La grâce qui travaille cette âme la prépare graduellement et l'entraîne aux dernières décisions. Le vicaire, désireux de dévouement, avait été heureux d'accepter le professorat. Il s'en détache spontanément pour s'élever à un état qui lui semble plus parfait. Écoutons-le. « Alors, Asparin m'apparut comme un ministère plus approprié à mes goûts et à mes aspirations. Je fus aussi touché de la vertu de ces messieurs, notamment de l'humilité, de la foi vive de monsieur le supérieur, c'était l'abbé de Hirald. C'était encore un échelon que Dieu ménageait à ma faiblesse pour me faire arriver degré par degré où je n'avais pas le courage de m'élever généreusement d'un bond. Ainsi, le père Bastre entre dans la petite milice, cette sorte de commando dont le travail apostolique est singulièrement fécond. Pourtant, cela non plus ne le satisfait pas. Et il dénonce la règle douce et commode de l'Asparin. Il pense aux Capucins de Bayonne, aux Jésuites de Toulouse, son collègue et ami, le père du Pérou, qu'anime de semblables aspirations, tente l'aventure chez les Capucins. Leur extrême dénuement décourage ses ardeurs. Au père Bastre, on assure qu'il n'a pas la santé qu'il faudrait. Durant la guerre de 70, notre Champertard accompagne en tant qu'aumônier le 2e bataillon de Mobile des Basses-Pyrénées, unité rattachée à l'armée des Vosges qui opère en Bourgogne. De cette période saillante et mouvementée de sa vie, dont Ildefonse ne nous dit rien, sinon qu'il fut une fois cité à l'ordre du jour du bataillon pour sa bravoure. À peine a-t-il retrouvé la règle douce et commode de Asparin, que nos deux amis, les pères Jean-Léon Bastre et Jacques du Pérou, envisagent un nouvel exil. Une épidémie a fait des ravages parmi les bétaramites qui assurent en Argentine le soin des âmes de nos compatriotes basques qui ont émigré, comme au Chili ou en Uruguay, en nombre considérable. Monseigneur Lacroix leur a donné son accord. Quand le supérieur d'Asparin, de Hirald, éploré, désolé de perdre ses missionnaires les plus zélés, intervient auprès de l'évêque et empêche leur départ. Le bon supérieur ne perdait rien pour attendre. Dès l'année suivante, 1872, se formait le complot qui allait aboutir 3 ans plus tard à la fondation du monastère bénédictin de Belloc. C'est au sein des missionnaires d'Asparin que germa l'idée d'une fondation bénédictine. Dans la maison fameuse qu'avait ouverte Jean-Baptiste Garat et que gouvernait en principe le père de Hirald, venait d'entrer un remuant personnage, Jean-Pierre Arbelbide, un galastar, né 30 ans plus tôt dans le petit village de Saro. Plus qu'à tout autre, c'est à lui, qui ne sera jamais bénédictin, qui finira chanoine titulaire de la cathédrale de Bayonne, qu'on doit la fondation de Belloc. Je ne vous raconterai pas aujourd'hui le détail des tractations et des manœuvres qui permirent la réalisation du grand projet à la date du 1er septembre 1875. Pour s'assurer du secret indispensable, le maître conspirateur Arbelbide tenait ses conversations décisives dans le cadre de confessions sacramentelles. Nos hommes s'étaient partagé la besogne. Les uns pourvurent aux nécessités matérielles, les autres aux besoins spirituels. Arbelbide et le jeune abbé Cyprien Caillava de la Bastide de Clérance disposaient de ressources relativement importantes. Ils réunirent un peu plus de 40 000 francs. À l'époque, c'était une assez forte somme. Et acquirent, sur les hauteurs que nous connaissons, la ferme Belloc, où ils réalisèrent les aménagements indispensables. Pour le spirituel, c'était plus compliqué. On ne fonde pas comme ça une maison bénédictine. C'est, si vous me passez la comparaison, un essaimage, ou si vous préférez, une bouture qu'il faut. Il fallait passer par un monastère établi, où on ferait son noviciat, où l'on prononcerait ses vœux, où l'on ferait profession, une sorte de couveuse, en somme, d'où l'on viendrait ensuite pour la fondation nouvelle sous le couvert de la maison mère. Cette mère éditrice, nos conspirateurs décidèrent que ce serait la pierre qui vire. Monastère du Morvan, auquel un abbé prestigieux, le père Muard, son fondateur, avait laissé une forte empreinte missionnaire. Car nos aspirants à la vie bénédictine n'envisageaient pas de renoncer à la mission auprès de leurs compatriotes. Ils seraient à la fois des priants et des missionnaires. Sur ce plan aussi, l'action d'Arbelbide est décisive. À l'évêché de Bayonne, comme au monastère bourguignon et comme à Rome, c'est lui qui se livre aux négociations, lui qui obtient les compréhensions et les autorisations décisives. Grâce à lui, la pierre qui vire joue ce jeu un peu compliqué, autorise le mouvement tournant dont nous avons parlé. Mais Arbelbide ne travaille pas pour lui. Lui-même n'a pas l'idée de s'enfermer dans son monastère bénédictin. Il travaille pour les autres. Il tire les ficelles, si j'ose dire. Sur le terrain, je veux dire au dur noviciat de la pierre qui vire, ils sont trois. Bastre, qui devient le frère Augustin, Dupérou, frère Thomas, Louis Ardance, frère Odilon, puis cinq, avec les frères Damien Lapeyre et Laurent Echeverry. Elle est loin, la vie douce et commode d'Asparin. Couché à 8 heures, on se lève à 2 heures du matin pour matine, et si on se recouche à 3 heures, c'est pour se lever de nouveau à 5 heures. L'office à l'église abbatiale prend quotidiennement 6 heures et demie, davantage les dimanches et les jours de fête. Le travail manuel occupe le reste du temps. À table, il n'y a ni vin ni viande. À ce régime, les visages s'émacient. La santé du frère Augustin Bastre est compromise. Il tient bon, pourtant, comme les autres. Arrivé le 9 novembre 1872, lui et ses compagnons prennent l'habit monastique le 20 novembre. Après un noviciat de 18 mois, ils font profession le 12 juillet 1874 et le 1er septembre 1875, dans l'après-midi, après des cérémonies solennelles et de fraternelles agapes à la Bastille de Clérance, les 5 premiers moines de Belloc entraient dans leur monastère sous l'autorité de Don Moreau, révérendissime père abbé de la pierre qui vire. Dans les années qui suivirent, les nouvelles recrues furent nombreuses. Belloc prospérait. En 1884, la maison devenait un prieuré, dont le père Augustin Bastre était le premier prieur. En 1890, Belloc devenait une abbaye, dont le père Augustin était le premier abbé. De vieilles photographies nous font connaître le Don Bastre de la vieillesse. Des cheveux blancs coupés courts et qui frisent, les yeux noirs enfoncés sous d'épais sourcils, le nez droit, court et fort, le front large, la bouche mince, le visage rond et large. Le père Ildefonse le définit comme une âme simple et droite, « verus israelita in quo dolus non erat », sans ruse et sans détour. Il avait une foi simple et totale, que le doute ne semble pas avoir effleuré. De la foi, il tirait avec rigueur les conséquences qui s'imposent. Il a expliqué une fois à Arbelbide les raisons de sa vocation monastique. Ce n'est pas un attrait sensible qui l'a conduit. Il n'avait pas de goût naturel pour la vie bénédictine. Il a cédé à un attrait raisonné, fondé sur des considérations de foi, à la volonté, premièrement, de procurer une plus grande gloire de Dieu par une vie plus sainte, plus mortifiée, plus unie à Dieu. Deuxièmement, d'avoir quelques chances de plus, quelques facilités de plus pour son salut et sa perfection. Troisièmement, de travailler plus efficacement au salut des âmes, d'en sauver un plus grand nombre. Saint Grégoire, ajoutait-il, disait qu'il y a des personnes qui ne peuvent se sauver sans entrer en religion. Et je crois qu'on peut ajouter dans le même sens qu'il y en a surtout beaucoup qui n'arriveront jamais à quelque peu de sainteté sans le secours d'une règle. Moi, j'ai la conviction d'être de ces personnes-là. À la prédication, le père Augustin Bastre apportait la même conviction et la même ardeur qu'à sa sanctification personnelle. Qu'on en juge par ce trait de sa vie que nous rapporte le père Ildefonse, il ne manque ni de signification, ni de saveur, ni d'innocence. C'était à Cibourg, au cours d'une mission. Le père Bastre, qui avait été attristé, indigné de la fréquence et de la grossièreté des blasphèmes que l'on entendait dans ce port charmant de la côte basque, résolut de frapper un grand coup. Il prit pour thème de la conférence du soir le second commandement, le respect du nom divin. L'église était comble, les hommes remplissaient la triple rangée de galeries. Une heure durant, le prédicateur invective, supplie, menace, avec toute sa vigueur, avec toute sa fougue. Puis s'arrête, semble réfléchir. Peut-être hésite-t-il. D'une voix qu'il veut calme, il reprend. Il interpelle maintenant les hommes. Il leur demande l'engagement solennel de ne plus blasphémer. Cet appel direct, inattendu, insolite, plonge l'assistance dans la gêne et le silence. Le curé s'inquiète et plaide pour sa paroisse. Inflexible, le père Bastre répond que sa supplique s'adresse aux fidèles et non pas aux pasteurs. Les femmes se lèvent et veulent promettre au nom de leur mari. Le père Bastre ne cède pas. Ce sont les hommes qui blasphèment. C'est à eux de s'engager. La foule s'agite. On crie. On pleure. Du haut de la chaire, le prédicateur tient tête. Son éloquence se fait plus pressante, plus impérieuse. Dans les tribunes, les hommes s'ébranlent et debout se rendent. Ils répondent aux missionnaires avec une humble soumission. Ni eux, ni leurs fils ne blasphémeront plus. Les derniers mois de la vie de Don Augustin Bastre furent marqués par de cruelles épreuves. Affaibli par la maladie, éprouvé par des deuils répétés, il vit en avril 1903 s'écrouler sa maison. En vertu de la loi sur les congrégations, l'établissement de Notre-Dame de Belloc fut dissous par arrêté gouvernemental et on obligea les moines à l'abandonner dans un délai de 15 jours. Les uns passèrent en Espagne, d'autres en Argentine ou dans l'Ouest américain ou en Palestine, d'autres encore errèrent en France, ici ou là, pour le père abbé, à peine arrivé à Idiazabal en Guipuscoa, l'un des lieux où l'on essayait de se regrouper, il fut atteint de paralysie. C'est là, sur cette terre d'exil, qu'il mourut, dans la nuit du 7 mars 1904, assisté par un de ses amis les plus chers, le père Cayavin.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le père Sabalo. C'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio La Pourdie. La semaine prochaine, 20e épisode, le cardinal Lavigerie.